Bonjour. Alors, voilà, nous continuons, nous avons amorcé le parcours dans ces merveilleux lits funéraires sogdiens de Chine qui renouvellent totalement la documentation depuis 20 ans et continuent à la renouveler au fur et à mesure des découvertes. On avait donc regardé des lits funéraires qui ont appartenu à des sogdiens, mais n'ont pas de caractéristiques iconographiques sogdiennes très nettes. Et puis après, on avait vu le lit d'Anyang, dont un panneau est à guillemets, et qui là nous introduit beaucoup plus dans un univers sogdien, avec donc le Sapao, le chef des marchands, avec son calot caractéristique qu'on va retrouver dans presque tous ces lits maintenant. Qui célèbre la fête du Nouvel An. Alors, nous en venons donc maintenant au lit funéraire d'Anxia, personnage dont on a l'épitaphe, j'en ai parlé la dernière fois, mort à Xian en 579, c'est le lit certainement le plus spectaculaire puisqu'il a gardé sa feuille d'or. Et j'avais donc dit que là, on a vraiment les thèmes religieux, ce proprement zoroastrien sogdien qui s'introduisent. Donc, ce que les Chinois appelaient la religion Xian, le zoroastrisme, tel que le pratiquaient les colonies sogdiennes, ils se rendaient bien compte que ce n'était pas tout à fait ce qu'il y avait en Iran, et ils avaient donc forgé un terme particulier. Hein. Alors, avec ici, donc très intéressant, la combinaison, donc, les oiseaux, les créatures hybrides, humaines, volatiles, paradisiaques, qu'on a dans l'art chinois, qui sont au départ, ils ont des racines chinoises avec les immortels taoïstes, mais ils sont aussi inspirés de l'iconographie bouddhiste indienne. Et là, ils sont relégués en haut et remplacés en bas par deux autres figures qui, elles, célèbrent véritablement le rituel du service des morts du quatrième jour, c'est-à-dire le jour où l'âme est jugée. Et ce jugement de l'âme, vous allez le voir dans le dernier lit que nous allons examiner. Donc, célèbre, j'en avais parlé, ce rituel dit rituel externe, avec, on voit, c'est représenté de manière très réaliste, avec des petits pains, des vases qui tiennent des pousses de grenades, des vases à vin, probablement, un autel du feu, ou plutôt un encensoir, là, très tarabiscoté, de type plutôt chinois, porté par des chameaux, et ces personnages sont représentés comme des hybrides, hein. Ils ont un corps de coq, mais une tête humaine, et plus précisément une tête de prêtre. Puisqu'ils ont le masque couvre-bouche des prêtres zoroastriens. Et en bas, alors, oui, c'est très très subtil, parce qu'en haut, on est carrément dans le plan céleste. En bas, on est dans un plan hybride. Le rituel qui fait basculer dans le plan céleste. Et en bas, on est sur le plan humain, c'est-à-dire les membres de la famille qui apportent leurs offrandes. Alors, ce type des prêtres oiseaux demande une petite discussion. Jusqu'il y a 3 ans, on pensait, je pensais aussi, que c'était une adaptation faite dans les milieux sogdiens de Chine, au VIe siècle, du thème principalement, disons, indien et chinois, de ces créatures célestes. Et en fait, non, pas du tout. On a découvert, il y a 3 ans, et j'y étais, j'en ai parlé d'ailleurs à mon cours il y a 2-3 ans ici, on a découvert que le thème existait en Asie centrale dès le 1er siècle de notre ère, même les environs de notre ère, au Khorezme, la région de la mer d'Aral, sur une peinture qui représente une divinité. Et c'est exactement le même type physique, avec donc les têtes, vous voyez le masque qu'on voit là très nettement, ici, hein, et les corps de coq, et ils tiennent, ce sont en même temps des prêtres, parce qu'ils tiennent les baguettes, le faisceau de baguettes rituelles, qu'on appelle les barsoms, qui sont utilisés dans le rituel zoroastrien. Alors, on savait depuis quelques années auparavant que le thème n'avait pas existé qu'en Chine, il existait aussi à Samarcande, sur des ossuaires. Le voilà représenté, on n'a pas le corps de coq, c'est incomplet, mais enfin on voit très bien qu'il devait exister. Là, il fait le geste de bénédiction. Et on a reconnu les mêmes personnages, en fait, sur la peinture de Bamiyan, au-dessus du Bouddha de 33 mètres, qui représente l'apparition du dieu Mitra au-dessus de la chaîne de l'Hindoukouche centrale. Alors voilà le couvre-bouche tel qu'il est aujourd'hui utilisé dans le rituel avec les baguettes. Et le voilà notre relief qu'on vient de voir, le relief d'Ansia. Alors, quelle est la signification de ce bizarre, de ce très bizarre motif iconographique? En fait, avant même qu'on découvre son origine au Choresme, la signification avait été découverte à l'époque où j'ai publié avec Pénélope Ribou et l'archéologue chinois Yang Chongkai le lit dit de Wirkak, qu'on va étudier en détail par la suite. L'explication dans la Vesta, les textes sacrés des Zoroastriens, avait été trouvée par notre collègue Octor Cherveux, professeur à Harvard. Il a porté à notre attention un passage du Vendidad, le traité, disons, rituel juridique de la Vesta, où il est question des différents services qui ont lieu pendant la nuit. Et alors il est dit que pendant le service Ushahin, c'est-à-dire le service de l'aube, le dernier service de la nuit, le dieu Srosh, qui est le dieu de la prière, de l'activité liturgique en général, est représenté par le coq qui est son prêtre assistant. C'est-à-dire qu'on a là une sorte de, on va dire, l'épiphanie, oui, on va appeler ça l'épiphanie, c'est le terme technique, du dieu Srosh qui s'introduit dans le rituel à ce moment précis qui est la dernière période de la nuit.
Excusez-moi, comment s'appelle-t-il ce dieu ?
Srosh, j'aurais dû l'écrire au tableau. S-R-O-L-O-N-S-H. Alors, en avestique, parce que ça, c'est la forme Pélévi. En avestique, c'est Sraosha. S-R-A-O-S-H-A. J'aurais dû l'écrire. Mais, et son nom est extrêmement parlant, puisque ça vient du verbe qui veut dire entendre, écouter. Donc, c'est le Dieu qui écoute la prière. Voilà. Pour toutes ces questions avestiques, la terminologie, tous les textes, extrêmement bien commenté. Je vous supplie de vous procurer l'ouvrage paru l'année dernière de mon collègue Pierre Lecoq aux éditions du CERF, L'Avesta, livre sacré des Zoroastriens, 900 pages, vendu pas cher, 44 euros, se trouve sur Amazon, et vous avez dans une excellente traduction, à la fois précise, philologiquement à jour, tenant compte vraiment des progrès récents et en même temps très élégante, le français tel qu'aujourd'hui seuls les Belges savent l'écrire, la totalité des textes de l'Avesta, bien, très bien commentés. Là, tout ça, vous le trouverez là-dedans. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi de représenter le dieu Srosh sous cette incarnation très particulière, parce qu'on a aussi des images de Srosh qui sont anthropomorphes, où il est représenté comme un... Voilà, avec des traits complètement humains. Et là, il est représenté avec sous cette forme hybride animale, c'est-à-dire la forme sous laquelle il apparaît en tant que prêtre assistant dans les services qui ont lieu dans la dernière partie de la nuit. Il y a deux raisons qui se combinent. L'une de ces raisons, c'est que Srosh est la divinité qui a sous sa protection l'âme du mort pendant les trois jours fatidiques qui se déroulent entre la mort et le passage sur le pont qui mène au paradis ou à l'enfer. Il y a trois jours pendant lesquels l'âme est convoitée par les démons, disputée entre les démons et les forces du bien. Elle est donc vulnérable et le dieu et ça correspond aussi très physiquement au moment où le corps n'a pas encore été déposé à la tour du silence et où donc il garde sa forme humaine, son enveloppe de chair, donc ses péchés. Voilà. Alors, Sroche prend sous sa protection l'âme du défunt à ce moment-là. Et c'est donc tout à fait logique qu'on le trouve omniprésent dans ces décors funéraires. Et par ailleurs, je vous ai dit que cette période, extrêmement cruciale, dure 3 jours et 3 nuits. Ça se termine le matin du 4e jour. C'est dans la lumière du matin du 4e jour que l'âme est attirée vers les hauteurs, chose qu'on verra représentée sur un de ces sarcophages, le sarcophage de Wirkak, et jugée. Le service liturgique qui accompagne le départ de l'âme pour cette épreuve terrible du jugement est célébré au matin du 4e jour, au moment même où Sroche apparaît sur l'aire sacrificielle sous cette forme de coq. Forme de coq, ça c'est pas la peine de chercher une longue explication. Sroche est le dieu de la prière, le coq est l'oiseau qui rappelle aux fidèles le matin qu'il doit faire la prière du matin. Donc on a là un tissu symbolique extrêmement cohérent qui devait être très parlant pour tous les zoroastriens, qui l'est encore, et qui explique cette extraordinaire combinaison de prêtres, de coqs dans ces décors funéraires. Tout ça, il faut savoir que pour les zoroastriens qui voyaient ça, tout ça faisait sens de manière extrêmement profonde. Évidemment, pour les Chinois, ça devait être autre chose. Ça devait leur sembler un petit peu bizarre. En même temps, ils trouvaient qu'effectivement, pourquoi pas, ils ont toujours eu des oiseaux paradisiaques avec face humaine, pourquoi les zoroastriens n'en auraient pas. C'est une explication un peu longue, mais qu'il faut absolument donner, puisque ce motif, on va le retrouver sur tous les reliefs, sur tous ces décors funéraires sogdiens de Chine, sauf sur les deux seuls dont il semble que le propriétaire n'était pas un zoroastrien. C'est quand même intéressant. Bien, alors, on en revient donc aux autres panneaux du lit funéraire d'Anxia. À part ce panneau au-dessus de l'entrée, qui est donc religieux, tous les autres panneaux sont biographiques. Ça, c'est un peu une spécificité parce que assez souvent, on trouve quand même des scènes religieuses dans les grands panneaux rectangulaires. Là, tout est biographique. Et le but, le message est en fait assez simple. C'est pour montrer que le défunt était un sapao. Il en a d'ailleurs le bonnet caractéristique. Vous voyez ici, son espèce de fez, là, qui ne porte pas dans les scènes les plus chinoises, mais qu'il porte dans les scènes où il est avec ses compatriotes. Le défunt était un sapao. On sait qu'Anxia est devenu sapao plutôt tout à fait à la fin de sa carrière. Et que c'est un grand personnage qui vit comme un aristocrate, c'est un marchand, mais il vit comme un aristocrate chinois et comme un aristocrate sogdien. Les deux, et on montre les deux. Et donc ce sont des scènes de délassement, j'appelle ça le délassement aristocratique. Et par ailleurs, il y a la majorité des scènes, j'appelle ça les scènes d'interaction. Il est montré comme un grand personnage qui a passé sa vie à négocier avec les puissances étrangères. Voilà. Donc ce sont les deux expressions de sa réussite sociale. Un notable chinois qui termine ses jours dans la prospérité dans la capitale et en même temps quelqu'un qui a joué un rôle international important. Et on verra que le commerce là-dedans, on ne le voit pas tellement. On voit plutôt de la diplomatie. Alors, les scènes de délassement aristocratique. Voilà, alors c'est très consciemment équilibré, sogdien et chinois. Alors ici, chinois, il est dans un pavillon, il est là, avec sa femme, habillé à la chinoise. Alors on a vu que ça ne veut pas forcément dire que ces femmes étaient chinoises, on a vu ça la dernière fois. Les femmes sogdiennes de la bonne société s'habillaient à la chinoise. Ceci dit, on sait que certains d'entre eux avaient effectivement épousé des Chinoises, mais ce n'était pas la majorité. Pour Anxia, sa dédicace, son épitaphe ne nous parle pas de sa femme, contrairement à d'autres. On ne sait donc pas qu'il a épousé. Alors voilà, déjà ravin, C'est un décor de jardin à la chinoise, hein, avec le jardin, le pont, les suivantes, etc. Et puis, vous voyez, il a bien profité de la vie. Hein. Ça, il cherche, ça aussi, c'est assez chinois. Il va pas cacher le fait qu'il a, il est devenu un personnage très prospère. Bien. Là, c'est à la Sogdienne. Donc, il est en plein air, sous une treille. C'est un pique-nique avec de la musique, des danseurs qui sont des nains, et on va voir des nains, alors on les voit aussi beaucoup dans l'art chinois. Ici, ce n'est pas extrêmement caractéristique que ce sont des nains. Sur d'autres reliefs, on voit très clairement que ce sont des nains. Et on en parlera peut-être dans un cours suivant, une des denrées pour lesquelles les Sogdiens étaient doués à importer en Chine, c'était les nains. Il y a des nains, il y en a partout. La nature en produit partout. Mais ils avaient réussi apparemment à persuader les Chinois que les nains naissent plus particulièrement chez eux. Et puis surtout, ils devaient avoir des écoles de nains, comme ils avaient des écoles de geisha, et où ces nains étaient formés à devenir des bouffons, etc., etc. Alors, c'est quand même pas comme Marco Polo qui nous raconte plus tard que à Sumatra. Ils avaient trouvé une niche commerciale qui était d'exporter des pygmées en Chine. Mais alors les pygmées en question, ils prenaient des macaques et ils leur coupaient les cheveux, ils leur laissaient une barbe pour faire croire que c'était des petits humains. Et les Chinois gobaient ça et pensaient que c'était des humains, des pygmées qu'ils achetaient très cher pour leur monde. Là, c'est pas le cas, c'est vraiment des nains. Et alors dessous. Une scène de chasse, alors ça on va en voir partout dans ces reliefs. À partir du moment où le personnage prétend être un aristocrate, il ne peut être qu'un chasseur, évidemment. Chasse au sanglier et chasse au lion. Et là, c'est très curieux parce que c'est très peu réaliste. Bon, la chasse au sanglier, le sanglier dans l'art iranien est toujours associé à des marécages. Là, bon, après tout, en Asie centrale, et même en Chine, des sangliers, il y en a. Mais des lions, il n'y en a pas. Ou alors, vraiment en Chine du Sud, ou alors dans les parcs de chasse impériale. Il n'y a pas de lions en Asie centrale, il n'y a pas de lions dans la steppe. Il y en avait en Iran, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y en a pas. Donc, et on voit très bien que ce lion est un lion complètement conventionnel. C'est un lion qui est repiqué sur l'art sassanide, celui qui se cabre comme ça. Donc, c'est pas réaliste. C'est une façon de dire, oui, j'ai chassé le lion comme un roi d'Iran chasse le lion. C'est le message. Alors, je vous ai dit donc que par ailleurs, on a les scènes que j'appelle les scènes d'interaction. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces scènes, le protagoniste étranger, voilà Ancia, qui joue du luth. Voilà son hôte, enfin celui qui le reçoit, ou qui le reçoit, difficile à dire ici, ils sont sur un pied d'égalité. Le voilà à nouveau, voilà. Les protagonistes sont toujours des Turcs. On va pas retrouver ça partout. Là, on voit que ce sont des Turcs parce que les cheveux, la natte dans le dos, très longue, c'est la caractéristique physique qui identifie les Turcs. Or, Ancia, ça colle assez bien avec sa biographie, il naît en 517 et en 550, les Turcs s'imposent comme le grand empire de l'Asie centrale. C'est-à-dire que sa carrière active sur les routes et sa carrière active de diplomate s'est passée à l'époque où l'interlocuteur de la Chine, ce sont les Turcs. Et on va voir après que c'est différent avec un autre personnage donc, qui est donc Wirkak, qui est mort au même moment, mais beaucoup plus vieux, qui lui avait connu les prédécesseurs des Turcs et qui l'a montré sur son sarcophage. Là, Ancia a choisi de ne montrer que des Turcs. Alors, on voit... Dans certains cas, on voit comme une progression dans son statut. Ici, il reçoit sur un pied d'égalité. Vous avez un autre Turc, voilà, vous avez un Turc ici. En plus, il est reçu chez un Turc, visiblement. Un autre Turc joue du luth, et Ancia joue de la harpe. Il a gardé son bonnet de sapao. Parce que un aristocrate iranien, ça doit savoir chasser, mais ça doit aussi savoir jouer de la musique. Et donc, il montre qu'il est un homme du monde. Là, des danseurs, la danse dite du tourbillon occidental, qui, alors quand les danseurs sont sogdiens, ce sont toujours des hommes. Ici, c'est pareil, il reçoit sur un pied d'égalité, là, à cheval, il rencontre ce personnage, il le salue. On va revenir sur la scène du dessous. Mais alors, dans d'autres cas, voilà, la hiérarchie est différente. Ici, il est reçu sous la yourte. Donc il est là, avec son bonnet. On voit que le bonnet se divise en deux parties. La yourte est recouverte de peau de tigre, de peau de tigre, donc tigre de Sibérie. Donc, c'est un notable turc qui le reçoit. Et là, on a quand même une rare allusion à l'activité commerciale, mais elles sont rares sur ces reliefs. On voit quand même un morceau de caravane, hein, le chameau et les ânes. Bien. Et dans la coulisse, devant la yourte, attendent d'autres personnages, mais qui sont de rang hiérarchique inférieur. Et là, on voit que ce n'est pas des Turcs. Ils ont des couronnes. Celui-là a une couronne de type sassanide. Voilà. Celui-là aussi. Ce sont en fait les prédécesseurs des Turcs, qu'on appelle les Eftalites. J'en ai beaucoup parlé à mon cours de l'année dernière. Et à cette époque, disons, des princes Eftalites subsistent en Asie centrale, mais sous la suzeraineté turque. Et on a l'impression que Ancia se met en scène comme un intermédiaire entre le nouveau pouvoir qui vient de s'affirmer et les anciens pouvoirs. Disons, cette scène n'est pas réaliste. Les princes de Samarcande ou de Boukhara ne sont pas venus dans la steppe avec leur couronne. Dans certains cas, ils faisaient le voyage, mais c'était pour aller à la cour de Chine. Mais voilà, c'est une mise en scène symbolique du rôle d'intermédiaire que le personnage joue dans la nouvelle structure géopolitique. Ici, on voit très nettement que c'est lui le chef. Il reçoit chez lui. Il n'est pas sous une yourte. Il est sous un pavillon léger à structure de bois, un pavillon de chasse, un pavillon de plaisance, à la manière sogdienne. Et le Turc est agenouillé, donc c'est lui qui reçoit. À nouveau, scène de danse et de ripaille, il porte des plats, etc. etc. Alors, ces scènes d'interaction se déroulent donc dans un cadre festif qui est, alors, on voit très nettement, donc, le toast. À chaque fois, les personnages échangent un toast. La danse, la musique à laquelle, nous l'avons vu, Ancia parfois participe lui-même. Et évidemment, beaucoup la chasse. Incidemment, ça c'est une des grandes découvertes que nous a apporté ce relief, voilà la première représentation connue d'étrier. On est en 579. Il n'y a aucun étrier représenté dans l'art sassanide. On a dit qu'il y avait des étriers sur les reliefs de Takibostan. En fait, le pied est détruit. Et la façon dont c'est Samra Azarnouch qui m'a expliqué ça parce qu'elle s'y connaît beaucoup en équitation. La manière dont le pied est placé à Takibostan et dans l'art sassanide montre que ces personnages ne sont pas appuyés sur des étriers. Archéologiquement, on les connaît, les étriers, depuis à peu près le 5e siècle, c'est mis au point chez les peuples de la steppe, les Avars, etc. Mais des représentations d'étriers, on n'en a aucune dans l'art sassanide. Dans l'art islamique, il faut attendre. Oui, on en a à la scène dite des ambassadeurs à Samarcande en 650, 660. On en a après dans l'art omayyade, mais c'est vraiment après la conquête arabe. Et là, on est un siècle avant. Et vous voyez, ils ont des étriers. Aussi bien les Turcs, qui ont par ailleurs, vous voyez, des magnifiques bottes en peau de tigre, aussi bien les Turcs que les Sogdiens qu'on a ici. se représenter. Alors vous voyez ici, il y a même des exploits héroïques. Un personnage qui pourrait peut-être être Ancia tire d'un mauvais pas son ami turc qui allait être attaqué par un lion bondissant. C'est totalement, totalement fantaisiste. On est dans le symbolique. Et alors, on a aussi, dans ce cadre festif, on a aussi des jeux de société. Alors, vous voyez ici, Ancia et son ami turc. Bon, on boit et il y a une table. Alors, et on voit, ouais, les gestes des mains sont animés, donc ils font quelque chose. Ça peut être les échecs, connus en Iran depuis le VIe siècle. Ça peut être aussi ce qu'on appelle le nard ou le backgammon, un autre jeu de type trick-track connu à cette époque. Alors, évidemment, la question qui peut se poser, on voit très bien que Ancia a voulu avant tout se montrer comme un diplomate. Un diplomate qui joue un rôle important avec le nouveau pouvoir des Turcs. En quelle qualité? Alors, on pourrait se dire, il a peut-être exercé des missions diplomatiques chez les Turcs pour le compte de la dynastie chinoise des Zhou du Nord, qui a réunifié la Chine du Nord à ce moment-là. C'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est que ses activités se dérouleraient plutôt dans le cadre de sa carrière commerciale active et qu'il négocie la sécurité des routes. Ça pourrait être aussi une des explications de ces scènes. Mais on voit très bien, et ça, là encore, on va le... À part quelques exceptions qu'on va voir maintenant, le commerce, qui est quand même la base de la richesse de ces gens-là, le commerce s'affiche très très peu. On veut montrer qu'on est bien un grand personnage qui a réussi dans la vie, qui est bien intégré dans la société chinoise, qui est reconnu comme un aristocrate par ses compatriotes, qui a les mœurs d'un aristocrate de son pays, mais on ne les montre pas en train de se salir, en train de compter les pièces de monnaie. Voilà. De ce point de vue-là, il y a quand même une analogie, assez frappante avec le discours de Marco Polo. Quand vous lisez Marco Polo, bon, on voit tout de même, il ne cache pas que son père et son oncle étaient partis pour affaires, etc. Mais lui-même se met pas du tout nulle part dans le livre de Marco Polo, vous ne trouverez écrit qu'il a acheté ou vendu quelque chose. Jamais. Son père et son oncle, oui, ils restèrent là un an pour leurs affaires. Bon. Lui, jamais. Il est un homme, il se présente comme un homme d'État, un fidèle de Kubilai Khan qui a exercé des missions de confiance diplomatiques, qui a été 3 ans sous-gouverneur de la ville de Yangzhou. Et ça a été mis en doute, mais on est maintenant persuadé que tout ça, c'est vrai, même s'il y a un petit peu d'exagération. C'est comme ça qu'il veut vendre son image. C'est pas du tout comme homme d'affaires. On sait par ailleurs que quand il est revenu à Venise, il était prospère, il plaçait des capitaux dans des affaires commerciales avec des gens membres de sa famille, il a continué. Pas des affaires énormes d'ailleurs, c'était plutôt des choses sur des trafics sur la mer Noire. Il a visiblement pas essayé de rentabiliser son extraordinaire expérience de la Chine et de l'Orient pour établir une ligne commerciale. Pas du tout. Il a fait des affaires assez locales. Mais en même temps, il veut se présenter comme un administrateur, un diplomate et un homme d'État. Ma petite idée, mais bon, voilà, qui n'est pas forcément partagée par tous les spécialistes, c'est qu'il voulait se négocier pour l'entrée au grand conseil de la ville de Venise. Voilà, et que donc il fallait qu'il montre qu'il avait une expérience d'homme d'État. Alors, je dirais, on est dans un univers mental, dans un message assez identique avec ces tombeaux, et notamment le tombeau d'Ancia. Alors, ceci dit, dans le répertoire des tombes sino-sogdiennes, il y a quand même 2 tombes où les épitaphes font mention surtout de la carrière commerciale du défunt. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 cas, il s'agit de gens qui sont morts très jeunes. C'est-à-dire qu'ils sont morts avant de devenir sapao. Ils sont morts avant de devenir des notables sédentarisés. Donc tout ce que l'épitaphe peut raconter sur eux, c'est que oui, c'était un bon commerçant. Mais ça, dans leur plan de carrière, ça venait en première partie. Mais ils sont morts avant la deuxième partie. Alors, on a notamment on a une épitaphe, voilà, qui a été récemment publiée par Bibo et Sims Williams. Alors, on a l'épitaphe, mais on n'a pas le tombeau qui va avec. Trouvé à Anyang, c'est-à-dire le même endroit que les reliefs qui sont, dont une partie est au musée Guimet et dont j'ai parlé. Ce défunt-là est mort en 580, il s'appelait Nanai Vande. Il est mort jeune, en même temps que sa femme. Alors, voilà son épitaphe en chinois, et voilà son épitaphe en sogdien. Beaucoup plus détaillé, c'est plutôt du bon sogdien, pas mal gravé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne dit pas qu'il est Sapao, donc on ne pouvait pas le dire, il ne l'a pas été, il est mort trop jeune. Mais on dit qu'en chinois, il a été Shangke. Apparemment, ça veut dire marchand itinérant. Et dans la version sogdienne, il est dit Huachak. C'est un apax, c'est un mot qu'on n'a pas par ailleurs, mais dans lequel il semble qu'on reconnaisse la racine roi qui veut dire le bazar. Et donc on traduit hypothétiquement grand marchand, et selon l'hypothèse de Pavel Lourier, ce serait peut-être l'origine du mot persan Huaja, qui a donné en français Huaja, qui est un titre encore utilisé. Aujourd'hui, c'est surtout un titre honorifique religieux. Ça désigne, en principe, en Ouzbékistan en tout cas, quelqu'un qui est Huaja, c'est supposé être un descendant des quatre premiers califes. Donc c'est plutôt religieux. Mais ça peut aussi désigner un riche marchand. Un titre de respect. Voilà. Donc, on a donc ce défunt, mort en 580. Et puis alors, on en a un autre, Anbei, mort à Luoyang en 589. Alors, je m'excuse parce que la qualité de mes reproductions n'est pas fantastique, parce que tout simplement, ces reliefs, on ne sait pas où ils sont. Enfin, c'est une histoire. Alors, c'est très dommage, parce que selon moi, c'est les plus beaux. Les couleurs sont subtiles, c'est pas criard comme dans certains cas. Vous voyez, ces proportions étirées, c'est vraiment pour moi les plus beaux. Alors, ce livre funéraire a une histoire vraiment très triste. Ça a été fouillé illégalement à Luoyang. On s'aperçoit quand on va à travers les publications chinoises ils ne peuvent pas tout contrôler. Et il y a des fouilles clandestines, il y a des trafiquants. Surtout maintenant que ces choses se vendent de plus en plus cher. Autrefois, un paysan qui tombait sur une tombe en labourant, il allait en rendre compte à son chef de brigade et puis ça montait tout de suite aux autorités archéologiques. Aujourd'hui, il y a des rabatteurs qui vont proposer des prix attractifs, bon, et ça part à l'étranger. De moins en moins, parce que maintenant les musées, notamment américains, n'ont pas très envie de se retrouver avec des contentieux avec les autorités chinoises et hésitent à acheter ce genre de choses. Mais maintenant, il y a des collectionneurs privés en Chine. Alors, ce relief de Anbei, on a les bases, que je ne vais pas montrer maintenant parce que ça n'apporte rien de particulièrement nouveau. Alors, les bases ont été sauvées et sont maintenant au musée municipal de Xi'an. Mais les quatre très beaux panneaux sont chez un collectionneur privé. Donc, tout ce que j'ai, c'est des scans faits d'après des photocopies qu'on m'a données là-bas à Xi'an. Mais c'est quand même... L'épitaphe est intéressante. Le personnage est mort en 589. Il est mort à 34 ans. Il n'occupait qu'un poste très subalterne dans l'administration militaire de la capitale. Alors, on se dit, on a dit, mais voilà, c'est la preuve que ça n'était pas forcément, comme on l'avait cru, les plus riches des Sogdiens qui pouvaient se commanditer ce genre de tombeau. C'était beaucoup plus démocratisé que cela. Oui, mais le père de ce garçon, il était l'un des trois commandants de la garde impériale des Sui. Et donc, clairement, c'est le Père qui a payé pour le tombeau. Donc ça explique, évidemment, la qualité extraordinaire. Alors, justement, alors l'épitaphe ne trouve rien à dire sur sa carrière administrative, à part une fois encore que, enfin, donc qu'il était vraiment un employé assez subalterne dans la hiérarchie militaire, mais on dit « c'était un très bon commerçant ». Voilà, c'est tout ce qu'on trouve à dire sur lui. Et alors, voilà, effectivement, l'un des panneaux, je m'excuse encore une fois pour le flou, le représente ici, à cheval, avec quelques compagnons. Et là, le cadre est vraiment, une fois n'est pas coutume, enfin, on a vraiment des chameaux bâtés, hein, vous voyez, là, avec des ballots. Là, je ne sais pas exactement ce que portent ces chameaux. Vous pourrez probablement trouver ça. Dans un décor de montagne, là, il est là. Et alors, tous ces personnages, avec les... il y a un âne, et tous ces personnages avec lesquels il est portent des couronnes de fantaisie de type un peu sassanide. Pour montrer que ce sont des personnages importants. Et là, c'est très curieux. On a à nouveau une scène de procession où il semble qu'on retrouve les mêmes personnages, mais non seulement ils ont des couronnes, mais ils ont des halos, tous. Et Hanbei est sous un parasol qui normalement est un attribut royal. Mais on avait vu avec les reliefs de Hanyang, à Guimé, que le Sapao aussi il a un parasol comme ça. Parce que c'est, une, voilà, c'est pour montrer sa dignité quasi royale. L'hypothèse que je fais, je ne suis d'ailleurs pas le seul à la faire, c'est qu'il y a un jeu subtil et qu'on est peut-être ici en train de passer sur le plan paradisiaque. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en route pour le royaume des morts. Encore une fois, ils ont les halos. Alors je sais bien, on va voir dans d'autres exemples, les halos, ce n'est pas toujours très employé de manière très consistante. Mais enfin, c'est quand même curieux qu'ici, il n'y a pas de halo et ici, il y a un halo. Quelque chose s'est passé entre les deux. Pardon ? Les montagnes. Oui, oui, mais ça, c'est à la Sogdienne. Ça, ça vient de l'art sogdien. Les montagnes dans l'art sogdien, c'est représenté un peu comme des morilles. Voilà. C'est à ça que ça ressemble le plus. Et ça, ça, c'est vraiment la façon dont les sogdiens représentent des montagnes. Et alors, voilà, deux autres panneaux. Donc, un thème classique qu'on a déjà vu, le délassement aristocratique sous un pavillon en bois, qui peut être chinois, mais qui peut être aussi sogdien, il boit. Il y a des hommes ici qui jouent des instruments de luth, des danseurs et des suivantes chinoises. Bien. Et là aussi, on a une scène de banquet, de délassement. Mais là, très clairement, on n'est plus sur Terre. Hein. Ces personnages sont des personnages bachiques. Ils ont, vous voyez, ils sont à moitié nus, avec leur collier, des types physiques de, un peu de type Silène. Et on voit très bien quel est le modèle. Le modèle, c'est le dieu indien Kubera, une des formes de Vaishravana. Kubera, le dieu de la fortune, très souvent représenté en Inde, dans des contextes à la fois hindous et bouddhistes. Et le voilà sur ce qu'on appelle la tasse du Punjab, qui est au British Museum, une tasse du 5e siècle, et c'est exactement très très proche de ça. Vous voyez, à moitié nu. Le modèle, évidemment, c'est le Silène. Enfin, c'est à la fois le Silène et le Bacchus de l'art gréco-romain. Il boit dans sa corne à boire avec un manche très long. Pareil ici, sa pipette, là. Bon, très clairement, c'est pas un personnage d'ici-bas. Donc, alors, on a évidemment un décor musical, des instruments de musique, ça pourrait être pour un festin normal, mais ces protagonistes ne sont pas des personnages terrestres. On est au paradis, on est au paradis. Et c'est vraiment la métaphore de la jouissance paradisiaque qui attend le défunt. C'est une façon de dire... Il menait la joyeuse vie sur Terre, et puis comme c'était un excellent individu, il va continuer au paradis sous la protection des divinités de la fortune. Hein? Alors, j'en viens maintenant... Ah, alors voilà, la bouteille à l'encre. J'en viens maintenant à trois lits qui, dans lesquels les thèmes religieux proprement zoroastriens prennent une place la plus importante. Ces trois lits, ce sont le lit dit Miho, le sarcophage de Wirkak et le sarcophage de Yuhong. Je vais parler aujourd'hui peut-être seulement du lit Miho et commencer avec Wirkak. Le lit Miho. Alors, là, il ne porte pas le nom de son propriétaire, du défunt, puisqu'on ne sait pas qui c'est, on n'a pas l'épitaphe. Ça n'a pas été trouvé en fouille. Ce lit est apparu sur le marché de l'art américain à la fin des années 1980. Il s'appelle le lit Miho parce qu'il est maintenant au musée Miho au Japon. Il a été exposé il y a une dizaine d'années à la British Library. Il n'est pas grand, c'est vraiment assez petit, plus petit que les autres. Il est apparu fin des années 80, on n'avait encore trouvé aucun tombeau sogdien en Chine dans des fouilles régulières. Le seul qu'on connaissait, c'était celui de Danyang, dispersé, dont un bout est à Guimet, apparu en 1911. On n'en avait pas d'autres. Alors, quand le Li Miho est apparu, il y a eu des doutes sur l'authenticité, parce qu'on a dit, mais vraiment, on peut trouver... Il y a des modèles tellement évidents dans l'art sogdien, qui était déjà à l'époque publié, c'est clairement une imitation. Et en plus, il faut reconnaître que par rapport à tous les autres lits que nous examinons, le style est beaucoup plus maladroit, beaucoup plus grossier, beaucoup plus hâtif. Alors, suite à ces rumeurs sur l'authenticité, la tentative de vente à un grand musée américain, je crois que c'était Los Angeles, a échoué, ou au Getty. La tentative a échoué, la vente a été cassée. Ou plutôt, ça avait été vendu et la galerie a dû racheter le lit. Entre-temps, on a découvert en fouille un certain nom, le lit d'Anyang, qu'on vient de voir, et d'autres qu'on va voir ensuite. Et les doutes se sont dissipés. Et à ce moment-là, c'est le musée Miho au Japon qui a raflé la mise et qui a acheté le lit. Alors, il y a toujours des gens qui doutent. Personnellement, je ne doute plus parce que, je vais vous en parler, il y a certains aspects, certaines représentations de rituels sur ces reliefs que je n'ai pu élucider que vraiment il y a 3 ou 4 ans. C'était pas évident du tout et ça pouvait pas être accessible à un faussaire. Donc je pense que personnellement en tout cas je suis pour l'authenticité de ce lit. Alors où a-t-il été trouvé? On a des rumeurs, il aurait été trouvé à Taiyuan, qui est donc une ville à mi-chemin, une ville importante à mi-chemin entre Pékin et Pékin et Xi'an. Taïwan, c'est la ville en fait, d'où sont partis les Tang, quand ils sont partis à la conquête du pouvoir en 618. Il y avait une importante communauté sogdienne, et de Taïwan, en tout cas, vient le lit dit Yuhong, qu'on va voir plus tard. Donc, on sait qu'il y avait des sarcophages sogdiens à Taïwan. Alors, petite incise, c'est quand même très bizarre, je ne suis pas le seul à me poser la question, qu'entre 1911, apparition du lit d'Anyang sur le marché chinois, enfin le marché international, dispersé partout, et la fin des années 80, où on voit apparaître le lit Miho, et puis dans les années qui suivent, plusieurs lits trouvés en fouille, on n'a strictement rien trouvé en Chine. Il y en a un qui avait été mal identifié. On peut se poser la question... Pourquoi ce silence pendant 70 ans? Et on ne peut pas exclure que si dans les années Mao Tse-tung, et notamment pendant la révolution culturelle, un archéologue trouvait des décors très manifestement étranger et démontrant la présence de prospères colonies étrangères dans la Chine à cette époque, c'était pas très bon pour sa santé. Et qu'il se pourrait qu'à ce moment-là, peut-être certaines découvertes auraient été réenfouies ou exfiltrées par Hong Kong, d'où elles sont. Il est possible, par exemple, que le Li Miho ait été trouvé il y a assez longtemps. Et voilà, il serait sorti par Hong Kong et il réapparaît à la fin des années 80. Mais alors, il faut dire que maintenant, la situation idéologique s'est quand même renversée en Chine et que nos collègues chinois sont tout à fait prêts à admettre la composante sogdienne. Il y a des collègues chinois éminents qui ont écrit des livres sur les sogdiens en Chine. Ils disent pas colonie. Enfin, voilà, on évite le mot colonie. Je l'évite par exemple dans mes conférences là-bas. Je parle de peuplement, installation. Je vais pas dire implantation parce que ça fait un peu left bank. Ils admettent tout à fait. Dans les musées, c'est tout à fait. On ne cherche plus à faire passer ces gens-là pour des Chinois. C'est présenté très clairement comme des étrangers. Alors, bien sûr, il y a tout un discours qui va avec. Au musée de Xi'an, au musée de Urumqi, on nous explique que, c'était très cosmopolite, il y avait des étrangers très prospères, des marchands, mais que, finalement, tous ces gens-là ont contribué, se sont fondus dans le grand courant de la civilisation chinoise, parce que l'approche, il y a une approche très nationaliste, mais ce n'est pas une approche raciale. Voilà, on considère que la civilisation chinoise a su s'imposer à ces différents peuples qui ont apporté leur contribution. Le discours a maintenant beaucoup changé et parfois j'ai même été avec Étienne de la Vessière et Pénélope Ribou, on était parfois invités à visiter on a été en tout cas à Taïwan, à visiter un lit typique des Wei du Nord du 5e siècle où on voyait un personnage qui avait l'air sogdien. Et il y avait la télévision et on voulait absolument nous faire dire que c'était un tombeau sogdien. On dit non, c'est un tombeau chinois, et c'est très rassurant, parce qu'on est au cœur de la vieille Chine, c'est quand même rassurant de savoir qu'il y avait encore de l'art chinois. Voilà. Mais le personnage qui avait l'air sogdien, ben oui, c'était un sogdien, mais parce que les Chinois distingués avaient des serviteurs sogdiens. Voilà, c'est le sogdien de service. Mais ça ne veut pas du tout dire que... Alors, il se trouve effectivement que dans ces lits de l'époque Wei, il y a un certain nombre de thèmes, je l'ai montré, qui sont après retravaillés dans une sémantique sogdienne. Alors, le répertoire des panneaux du Li Miho recoupe très largement ce qu'on a déjà rencontré dans les exemplaires précédents. Hein. Voilà, donc le banquet aristocratique à la chinoise, ou alors, une fois de plus, le personnage est représenté à la fin de sa vie avec les caractéristiques d'un homme qui a réussi, hein, comme on dit en Italie, uomo di panza, hein, la danse, la danse est virevoltante, ici c'est plutôt des musiciens sogdiens, des scènes d'interaction, on ne le reconnaît pas en fait, on montre plutôt des peuples exotiques. Alors là, c'est les Turcs, clairement. Vous voyez avec les longs cheveux, là. Le Turc sous sa yourte. Des Turcs ici, et les Turcs à la chasse. Et là, sur un éléphant, ça ouvre sur une autre direction de l'espace. Alors, on peut penser au Cachemire, on peut penser à l'Inde au Gandhara, ces pays avec lesquels les commerçants sogdiens étaient également en contact. Les couronnes sont assez typiques, en fait, de ce que portaient les souverains de ces régions au VIe siècle. Là, c'est contrairement au tombeau d'Anxia où il y a un certain réalisme et où on voit le personnage en négociation et semble-t-il même progressant dans son statut social, c'est difficile de faire la part pour ces reliefs-là entre des évocations biographiques et une simple ouverture conventionnelle sur les grands espaces. Mais alors, il y a des spécificités qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a des scènes religieuses. C'est celui de ces... Voilà, avec le Li Wirkat qu'on verra plus tard. c'est celui des lits où il y a le plus de scènes religieuses typiquement sogdiennes. Alors voilà, donc là, la scène de procession assez habituelle, le personnage avec son bonnet de sapao, donc on peut comprendre bien qu'on n'ait pas son identité ni son épitaphe, que c'était un sapao, avec sa femme, en cortège, sous son parasol de sapao, bien, mais ici, des danseuses, des musiciens, mais il n'est pas chez un souverain étranger, il est dans un temple. C'est un temple d'une déesse qu'on reconnaît, c'est la grande déesse sogdienne Nana, à quatre bras, qui tient le soleil et la lune, grande déesse de la fécondité, et Nana est représentée en sogdiane, voilà ici, une peinture de Charlestan, en Ostrouchana, le soleil, la lune, et elle est à califourchon sur un lion, un attribut qu'elle a hérité de la mésopotamienne Ishtar. Et là, le lion est évoqué simplement sous forme de deux têtes, qui est, voilà, une tête de lion ici, vous voyez, à la gueule ouverte, et une tête de lion ici. Ça évoque évidemment un trône qui aurait deux avant-corps de lion. Et des musiciennes. Alors, les musiciens, c'est l'accompagnement normal des divinités sogdiennes, parce que musicien, ça veut dire paradis, voilà, dans l'art sogdien, puisque le paradis, c'est la maison du chant. En même temps, Nana a, en tant qu'héritière partielle de la mésopotamienne Ishtar, qui représentait la planète Vénus, Nana a des affinités plus particulières avec le monde de la musique. En tout cas, quel est le sens de cette scène? C'est quand même curieux, c'est unique. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est une visite à un temple? Voilà. Et ici, une autre scène très curieuse où on voit à nouveau... oui. Ah ben ça va avec l'évocation de la musique. On a à nouveau, semble-t-il, le défunt avec un autre sapao. Et ici, on retrouve le thème qu'on a déjà vu du cheval scellé sans cavalier, dont on a vu que dans certains cas, c'est le cheval du défunt. Et puis, sur le relief d'un yang, il est apporté dans la procession, alors peut-être qu'il est apporté en sacrifice. Voilà, sur des reliefs, sur des ossuaires sogdiens, c'est clairement un cheval de sacrifice. Mais alors là, il a des traits spéciaux, il est sous un parasol, bon ça se voit aussi dans l'art chinois. On lui tend une offrande et il surmonte des poissons. Donc, il y a peut-être bien une resémantisation de ce thème et j'ai proposé d'y reconnaître le symbole d'une grande divinité sogdienne, divinité zoroastrienne, Tishtriya, le dieu de la pluie. Parce que Tishtriya, c'est raconté quand vous allez vous précipiter sur la traduction par Lecoq de l'Avesta, vous avez l'hymne à Tishtriya, où il y a ce texte magnifique où on explique que Tishtriya, au début de chaque saison, enfin, à chaque printemps, surgit des eaux de du fleuve sous forme d'un cheval blanc et il combat un cheval noir qui est le démon de la sécheresse. Et alors, si le cheval blanc gagne, l'année sera bonne. Si le cheval noir gagne, l'année sera mauvaise. Donc, ça pourrait bien être le dieu Tishtriya qui sort des eaux. En même temps, il y a eu un processus, disons, d'assimilation bien compréhensible, entre Tishtriya et la divinité du fleuve Oxus, fleuve de la Moudaria. Alors avec Marchak, on s'était demandé, est-ce que ce serait l'allusion à des voyages qui auraient emmené le défunt à traverser ce fleuve, puisque Tishtriya, comme le fleuve Oxus, était invoqué par les marchands sogdiens. Il y a beaucoup de marchands sogdiens qui ont des noms, qui sont formés sur le nom de ce fleuve, qui en même temps a pu parfois s'appliquer à d'autres rivières. Ça devient un peu le dieu fleuve par excellence. Et il semblerait assez logique qu'il ait été invoqué pour la sécurité des passages. Et ça pourrait peut-être être bien le sens ici. Et puis, je termine avec une scène religieuse. Alors là, unique sur tous ces reliefs, parce que c'est le seul cas où on a une allusion assez explicite au rituel des funérailles. Alors je m'explique. Ça se lit de bas en haut, et ça se comprend très bien. Vous avez ici des personnages, visiblement la famille, qui se recueillent dans un décor montagneux. Vous avez ici, vous avez clairement la veuve et la fille, et les trois fils. Les trois fils sont venus à cheval, leur cheval attendent, les femmes, elles ont dû venir en char à bœuf, et se recueillent dans un arbre, dans un paysage de montagne. Et en haut, vous avez le charom, je n'ai pas besoin de vous le présenter à nouveau, donc ce rituel avec ce rituel du service du quatrième jour après la mort, avec les plats qui portent les offrandes, le prêtre avec son masque, vous le voyez, hein. Et puis, j'ai commenté la suite. Donc, c'est ce qui se passe avant le charom, ou au même moment. C'est l'allusion à l'abandon du cadavre aux bêtes sauvages. Alors vous me direz, où est la tour du silence? Elle peut ne pas être montrée, elles étaient de toute façon construites à l'écart des oasis. Mais il n'y en avait pas forcément. Dans les prescriptions funéraires zoroastriennes, ce qui est important, c'est que le cadavre soit abandonné soit aux oiseaux, soit aux chiens, et dans des conditions qui vont éviter que la chair ne soit traînée partout et souille les eaux, les rivières. Donc, le cadavre doit être attaché, mais pas forcément dans une structure ad hoc. Et c'est très probablement le dernier adieu aux morts, au moment, et ça on sait que même dans le rituel zoroastrien moderne, les lamentations sont prohibées dans le zoroastrisme moderne, mais enfin, disons, les manifestations de tristesse ont lieu précisément à ce moment-là, au moment où le corps va être déposé à la tour du silence. On appelle ça le shevan, la lamentation. C'est ça qui est représenté ici, et qui est représenté ici d'une manière beaucoup plus violente. Parce que vous voyez ce qu'ils font, ils se coupent les oreilles. Ils se tapent sur le front, ils se coupent les oreilles. Bon, alors, ce n'est pas les membres de la famille. Les membres de la famille, ils sont là, ils se recueillent. Et là, je vais commenter la mère et la fille, je vais vous expliquer exactement ce qu'elles font. Ce sont ce sont en fait des pleureurs professionnels. On voit très bien, c'est cette scène extraordinaire qu'on a à l'entrée du temple de Tpenjikent, le temple de Nana. Alors voilà Nana avec ses quatre bras, ses cheveux épars, qui se lamentent sur un personnage féminin, enfin bon, ce serait trop long de revenir là-dessus, mais on a des interprétations, qui est dans son catafalque. Ici, c'est Déméter qui est associé à Nana, qui écrase sa torche. Et ici, ce sont des pleureurs. Mais ils ont même des cicatrices sur le front, vous voyez. Ce n'est pas la première fois qu'ils pleurent dans des funérailles. Et ils se coupent les oreilles. Donc, alors attention, ce n'est pas si dramatique qu'on pourrait croire. Ce n'est pas Van Gogh. C'est-à-dire qu'on sait très bien que quiconque a eu des enfants sait parfaitement qu'une petite entaille à l'oreille, ça saigne beaucoup. Et donc, en s'infligeant des blessures à l'oreille, sans avoir à se mutiler forcément, on crée des saignements très spectaculaires. Voilà, et c'est certainement ça qui se passe ici, et qu'on voit ici, voilà. Alors, que font ces deux femmes à l'arrière d'une sorte d'enclos à chameaux, portant un paquet de tissus, visiblement. Il y a quelques années, j'ai proposé une interprétation qui semble avoir été acceptée. C'est un rituel zoroastrien, encore utilisé, qu'on appelle le cédra. Alors, le cédra, ça désigne une chemise, une tunique, qui va être spécialement tissée dans la maison du mort par les femmes de sa famille, et qui ne servira pas dans la vie courante. Et au moment du décès, cette chemise est donnée au prêtre, qui la consacre. Et elle est supposée habiller le mort dans l'au-delà. Et voilà, c'est ça. C'est représenté sur cet ossuaire de Charisabz. Vous avez ici, en bas, le Tcharom. Vous reconnaissez... J'ai déjà commenté cette image, hein, avec les moutons pour le sacrifice, le vin, le cheval, le brûle-parfum, les petits pains, le prêtre avec son masque, la triple ceinture, et en haut, ça se passe au paradis, hein, il y a les musiciens. Le dieu du paradis est ici, probablement, à mon avis, l'un des dieux, je pense que c'est Varman, bon, et je pense la veuve, en fait, ici, qui a consacré le tissu, lequel sert à habiller l'âme toute nue du défunt qui est accueilli au paradis. Alors les textes vous expliquent que si le défunt a été un bon zoroastrien, il sera habillé au ciel par ce tissu. Mais s'il a été mauvais, on va le laisser tout nu. Et en attendant le jugement dernier, il va être condamné à se geler. Voilà. Donc, c'est exactement ça qui est montré là. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que cet enclos à chameaux ? On a l'explication. En fait, c'est un bout, voilà, c'est l'arrière des chameaux. Ils sont battés. On a la suite, on a cette image, c'est un extrait d'une image plus grande, mais qui n'est pas montrée ici, mais qu'on va voir sur le tombeau Wirkak. C'est le pont du Chinvat. C'est le pont que le défunt va franchir avec une caravane pour aller au paradis. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la mère et la fille du défunt consacrent, c'est pour montrer que ce tissu qu'elles ont remis au prêtre est destiné à accompagner le mort dans l'au-delà. C'est un message. Bon, il se peut que nos pauvres interprétations contemporaines soient complètement à côté de la plaque et que les usagers de ces reliefs nous tourneraient complètement en ridicule. Mais, comme me disait un jour Marchak, je supposais que dans un cas précis, peut-être l'artiste n'avait pas très bien compris ce qu'il représentait. Il m'avait dit, vous en faites pas. Il comprenait mieux que nous. Bon, voilà. Donc, mais c'est quand même très vraisemblable que c'est ça. Mais allez-y, monsieur.
Un détail qui a l'air non négligeable et qu'on n'avait pas commenté.
Le chien. Ah oui, alors j'aurais dû. Évidemment, j'aurais dû. Dans le rituel de l'adieu aux morts, enfin, pendant les trois jours après la mort, on présente un chien on présente aux morts un chien dont le regard va éloigner les démons. On appelle ça la vue du chien, le sagdid. On prend même un chien spécial. On aime bien prendre des chiens qui ont deux taches jaunes sous les yeux parce qu'on suppose qu'ils ont quatre yeux et donc ils voient mieux. L'usage du chien dans les rituels funéraires, c'est connu, bon, parce que le chien voit la mort là où les hommes ne la voient pas. Hein. Ils hurlent à la mort quand les hommes n'ont pas encore compris que la mort arrive. Voilà. Donc, c'est évidemment le chien du merci de m'avoir. Je l'avais d'ailleurs dit dans mes notes, mais ça me paraissait tellement évident que j'en aurais pas parlé. C'est évidemment le chien du Seigneur. Alors là, on a une véritable leçon illustrée de rituel funéraire sogdien, avec les aspects très orthodoxes, le sacrifice du Tchaharom, l'habit du prêtre, le dépôt du défunt aux animaux sauvages, et des aspects, le cédra, et des aspects beaucoup moins orthodoxes, condamnés de manière répétitive dans la littérature zoroastrienne, mais qui n'en étaient pas moins fortement pratiqué en Asie centrale, c'est la lamentation pour le mort. Voilà, j'ai terminé donc avec...